Le psaume 21 est donc un psaume parmi d'autres, mais si on le regarde de près, il s'y trouve plein de trésors, de pépites merveilleuses qui peuvent nourrir notre foi. Et en fait, malheureusement, beaucoup de gens lisent ces textes beaucoup trop vite, sans faire attention à chaque détail et passent à côté de l'essentiel. La première chose à côté desquelles beaucoup de gens passent, et même certaines traductions, c'est le premier verset, qui curieusement, comme vous le voyez, a été enlevé dans la traduction écuménique pour une raison que j'ignore. Probablement qu'ils considéraient que ça devait être un titre sans importance. Et même la nouvelle traduction second l'a mis en italique comme s'il s'agissait d'un titre de l'éditeur, alors qu'il ne s'agit pas d'un titre de l'éditeur, mais bien du premier verset du texte sacré. Ce premier verset, au chef de cœur, psaume de David. Il est vrai que vu comme ça, cela semble sans grand intérêt, mais je m'étais promis de commenter tout ce psaume sans faire d'hébreu, je ferai quand même un mot essentiel. C'est que David, c'est le nom propre du roi que vous connaissez, mais c'est aussi un mot commun en hébreu, Dod, qui veut dire l'amour. Et donc ce titre dit simplement au chef, c'est-à-dire à l'excellent, à celui qui excelle, chant d'amour. Et donc tout ce cantique est un chant d'amour. Et ce qui est dit dès le départ, c'est que la clé de lecture de l'ensemble du psaume, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. La suite, elle-même, est encore quelque chose d'essentiel, et malheureusement, là encore, les traducteurs modernes ne s'en rendent pas compte. Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Pourquoi Dieu est-il appelé là Éternel? Et c'est là pour moi un sujet de désolation. C'est qu'aujourd'hui, toutes les traductions vendues dans le commerce ont remplacé Éternel par Seigneur. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Alors que dans le texte original, parfois Dieu est appelé Seigneur et parfois il est appelé Éternel. Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce que Seigneur, ça suppose une sorte de rapport un peu hiérarchique. C'est celui qui dirige, auquel on obéit et qui nous protège. Mais Éternel, c'est un nom particulier de Dieu où il était nommé ainsi pour la première fois au buisson ardent. Lorsque Moïse demande à Dieu son nom, il dit « Je suis celui qui est ». Et donc l'Éternel, c'est celui qui est, qui était et qui sera éternellement. C'est ce qu'on appelle le tétragramme, Yahvé. Et ce nom est attribué à Dieu quand justement on veut parler de Dieu comme d'un Dieu de grâce. C'est-à-dire ce Dieu du buisson ardent qui est extraordinaire parce qu'il dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis venu pour le sauver ». C'est-à-dire que c'est sans condition, juste parce que Dieu compatit pour la misère, qu'il décide d'aller donner le salut. Et donc vous voyez que ce Dieu éternel n'est pas un Dieu qui dira « Je te sauverai si tu es fidèle, je te donnerai là une longue vie si tu es un bon pratiquant, un bon croyant ou autre chose ». Simplement, c'est le Dieu qui de lui-même vient vers l'humain parce qu'il souffre, par amour et compassion pour lui. Et donc, qu'on appelle Dieu éternel, c'est déjà tout un programme. C'est-à-dire ce Dieu de grâce, de bonté, qui n'est pas un Dieu de jugement ou de marchandage de quoi que ce soit. C'est simplement, là encore, un Dieu d'amour. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi, toutes nos traductions, même les traductions protestantes, maintenant, mettent du Seigneur à tout bout de champ. C'est insupportable. Il faut garder ce éternel, qui a été d'ailleurs une invention des protestants au XVIe siècle pour essayer de traduire le tétragramme. Et l'invention était si bonne que même les juifs, dans leur traduction française, l'ont reprise et mettent « éternel » quand il y a ce mot « Yahvé » dans le texte original. Et donc oui, c'est bien cela, « éternel ». Le roi, nous dit-on, se réjouit de ta force. Alors, le roi se réjouit de ta force, regardons de près. C'est intéressant parce que il est là une question de force, mais le psalmiste ne dit pas que le roi va pouvoir gagner contre tous ses adversaires grâce à la force de Dieu, mais ce qu'il dit, c'est que la force de Dieu lui donne de la joie. Et je trouve que c'est un peu inattendu, parce que si c'est un roi, on aurait pu attendre qu'il dise « La force de Dieu me donne la victoire sur mes ennemis ». Mais là, la force ne donne pas la victoire, il donne la joie. Et je trouve que c'est très beau ça. Vous voyez que déjà dans ce petit morceau de verset, il y a une affirmation formidable, que ce Dieu de grâce qu'est l'Éternel, il est à la fois pour moi source de force et source de joie. Dieu est force et joie. Voilà une affirmation absolument essentielle. Quant à la question de ce roi, les commentaires se demandent tous de qui il peut s'agir. Le roi, alors de qui s'agit-il? Alors, on pourrait penser qu'il s'agit de David, mais c'est probablement légendaire, David n'a probablement écrit aucun de ses psaumes. Alors, si vous lisez des commentaires savants, ils vous diront « ce psaume a été composé pour le couronnement du roi Josias ou d'un autre roi, ou de Nabucodonosor ou Tartempion », ça n'a absolument aucun intérêt, à mon avis, peu importe pour le couronnement de qui. D'autres, un peu plus intéressants, disent « le roi qui se réjouit donc en Dieu, ça doit être le Messie, le roi des rois, c'est-à-dire le Seigneur ». Et effectivement, on peut dire que le Messie, lui, se tient sa force de Dieu, et tout ce qu'il a, il le vient de Dieu, ça s'attribue au Christ, en quelque sorte. Je ne le nie pas, mais à mon avis, ça n'a aucun intérêt non plus, parce que ça mettrait le texte à distance de nous. Que Dieu donne sa force et sa joie au Messie, je suis très content pour le Messie. Mais moi, j'ai besoin de force et de joie. Et donc, je vous rappelle ce grand principe d'interprétation de tout texte biblique, c'est qu'un texte biblique, quel qu'il soit, parle toujours de moi ici et maintenant. Et donc ce texte parle de chacun de vous ici et maintenant. Autrement dit, voilà la bonne nouvelle, c'est que vous êtes appelé roi. Et ça, vous ne l'avez pas vu venir, cette bonne nouvelle. Mais non seulement Dieu vous donne force et joie, et en plus, il vous dit, vous êtes des rois. Et des reines pour les femmes, ou des princesses si vous êtes jeunes, ou des petits princes. En tout cas, vous êtes royaux. Et ça, c'est une autre grâce extraordinaire. Dieu fait de nous des rois. On trouve ça dans d'autres passages, bien sûr, jusque dans l'Apocalypse, où il est écrit que Dieu a fait de nous un royaume, a fait de nous des rois et des prêtres. Et donc nous sommes considérés comme chacun de nous est un roi, c'est-à-dire chacun de nous avons une dignité extraordinaire en Dieu, et chacun de nous est considéré par Dieu comme étant le plus grand des plus grands. C'est ce que nous disons d'ailleurs au moment des baptêmes. Quand on baptise un petit bébé, comme nous le ferons tout à l'heure, nous disons ce petit enfant tout petit qui ne sait ni lire ni écrire, eh bien c'est un roi, c'est un prince. C'est une personne ultimement importante et qui est au sommet de tout parce que Dieu regarde chacun de nous comme une personne absolument essentielle, fondamentale et centrale. Et donc voilà, tu as fait de nous, autrement dit même, un roi. Combien ton salut le remplit d'allégresse. Et donc là, je vous l'ai dit, ton salut, comme il exulte beaucoup, on a encore d'autres mots pour dire la joie, on a au moins trois mots différents pour dire toutes ces joies différentes. Et ça, ça me fait plaisir, parce que ça nous rappelle que le christianisme, c'est vraiment une religion de la joie. Et ça, on ne le dit pas assez, non seulement à cause du passé médiéval catholique ou des flagellations et autres, où on montrait que la religion, il fallait se souffrir pour gagner la sainteté. Les protestants n'ont pas été mieux. Calvin, à Genève, n'était pas franchement un chef, je dirais, d'une communauté où il était de bon goût d'être joyeux et heureux. Mais en tout cas, moi, ce que je lis dans l'Écriture, c'est que ce que Dieu veut, c'est la joie sous toutes ses formes. Et cette joie, elle nous est donnée, nous dit le texte, dans le salut. Ton salut me remplit d'allégresse. Alors ce salut, quel est-il? Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse du salut à la mode du Moyen-Âge, d'être sauvé, d'aller au paradis plutôt que d'aller en enfer ou d'autres choses comme ça. La question, c'est toujours de savoir de quoi Dieu nous sauve. Et je pense que la foi, l'évangile, notre prière, notre vie spirituelle, notre quête même intellectuelle, nous sauve de beaucoup de choses qui peuvent nous remplir de joie. Il nous sauve d'abord de la tristesse, tout simplement. Il nous sauve du désespoir. Il nous sauve de la culpabilité en nous donnant son pardon. Il nous sauve de la mort en nous donnant la vie éternelle. Il nous sauve peut-être même encore plus, au moins en partie, de la peur de la mort. Et puis il nous sauve aussi, pourrions-nous dire, de l'absurde, parce que grâce à l'Évangile, notre vie a un sens, alors que sinon, quelle est-elle ? Quelle est cette agitation biologique que nous représentons dans le monde qui ne rime à rien ? Eh bien, la vocation qui nous est donnée dans l'Évangile donne un sens à notre vie, et donc Dieu nous sauve de l'absurde. Ou encore, il nous sauve de la peur, tout simplement, parce que nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Donc oui, effectivement, dans la joie, dans le salut de Dieu, dans tout ce qu'il apporte dans notre vie, nous avons une joie immense. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que cela veut dire que c'est formidable, Dieu accomplit tous nos désirs ? Mais en fait, je ne pense pas que ce soit ça. Parce que Dieu n'est pas la fée clochette, ni la lampe d'Aladin, fais un vœu et je l'exaucerai, si Dieu exauçait tous nos désirs. Dieu n'est pas au service de nos désirs. Et que ce qui est intéressant dans ce verset-là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le reste de la langue originale le confirme, c'est le fait que ce soit au passé. Il ne dit pas « il est heureux parce que tu vas lui donner tout ce qu'il désire », tu lui as donné. C'est-à-dire que, je vous rappelle, c'est chacun de vous ici même. Vous pouvez dire « Dieu m'a déjà donné tout ce que je pouvais désirer ». Et c'est ça peut-être la clé du bonheur, c'est de dire que finalement, tout ce que je peux désirer, Dieu me l'a déjà donné. Autrement dit, vous passez votre temps à vous dire « j'aimerais bien une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau métier, plus d'argent, plus de santé, etc. » Eh bien, vous avez tout faux. Dieu vous a déjà tout donné ce qu'il faut pour vivre heureux. Et que la joie du roi, ici, c'est qu'il reconnaît qu'il a déjà tout ce qu'il faut, il en a bien assez. Cela, on le trouve dans un texte de Paul, je ne sais plus où, vous le retrouverez, où Paul dit « J'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à être dans la famine et j'ai appris à être dans l'abondance, à être dans la pauvreté et dans la richesse. J'ai appris à être dans la peur ou dans le confort. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et je vais vous faire une petite confession intime. C'est que parmi les raisons qui font que je suis aujourd'hui dans cette chair, c'est-à-dire de ce qui a pu nourrir ma vocation, il y a une cantate de Bach, qui est, je crois, la cantate BWV 83. Vous l'écouterez en pensant à moi. « Ich bin vergnügt mit meinem Glück », je crois que c'est ça. « Je suis heureux dans ma joie ». Et où il y a un air bouleversant, où le soprano chante en disant « J'ai tout ce qu'il me faut. Dieu m'a donné et je n'ai besoin de rien d'autre que de la présence de Dieu. Et si j'ai un petit peu de pain pour me coucher le soir, j'ai assez ». Et il y a là un récitatif extraordinaire parce que Bach savait mettre en peinture ces textes et dans ce récitatif, on entend le soprano chanter « Si j'ai la présence de Dieu et un peu de pain, je n'ai besoin de rien d'autre. » Et la musique fait de rien, nicht, plan, plan, terminé. J'ai tout ce qu'il me faut. Et donc voilà, le roi est heureux parce qu'il lui a tout donné ce qu'il pouvait désirer. Mais maintenant, si vous regardez ma traduction, vous verrez qu'on peut le lire autrement. Il dit « Tu lui as donné le désir de son cœur ». Ça, c'est le texte littéral. Et donc, le psaume ne dit même pas « Tu lui as donné l'objet de ton désir », mais « Tu lui as donné le désir ». Et tout à coup, je me dis « Mais finalement, est-ce que aussi, on ne pourrait pas le comprendre autrement ?» En disant que la merveille de ce que Dieu nous donne, c'est de désirer. Dieu nous donne du désir, c'est-à-dire pas simplement de se dire « je me contente de ce que j'ai et je vais m'asseoir sur un banc en attendant la mort », mais il a « j'ai tout ce qu'il me faut, mais j'ai aussi un désir, une volonté d'aller quelque part, d'avancer, c'est-à-dire que j'ai un moteur dans ma vie ». Et d'avoir un désir dans sa vie, tant que ce ne sont pas des désirs matériels, c'est une chose extraordinaire. C'est ce qui est dit justement dans les Béatitudes, quand il dit « heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui ont un désir de grandir, de progresser, d'avancer, d'apprendre, d'agir ». Et c'est peut-être aussi cela que Jésus admirait chez ses enfants, quand il dit « ceux qui... laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent ». Parce que les enfants ont sans arrêt le désir de grandir, d'apprendre, de découvrir, d'avancer. Et cela est absolument essentiel. Et donc la foi, en même temps, je dirais, calme nos désirs les plus morbides, et en même temps, la foi suscite en nous un désir de vie extraordinaire qui nous permet d'avancer. Et donc voilà, tu lui as donné le désir de son cœur et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres. La demande de ses lèvres, tu ne l'as pas empêchée. Parce que oui, Dieu accepte tout à fait qu'on lui dise de quoi on a besoin. C'est même peut-être le sens de la prière. La prière, ce n'est pas de réclamer à Dieu, mais on peut dire à Dieu tout ce que l'on désire, tout ce que l'on craint, tout ce que l'on souhaite, tout. Et le propre de la prière, c'est de tout communiquer à Dieu. Ce n'est pas de faire une liste de courses, mais je dis à Dieu. Et même, je vous ai dit tout à l'heure que dans la prière, je ne demandais pas de choses matérielles, mais sans le demander, si vraiment j'aimerais tellement qu'il fasse beau ce week-end, parce que j'ai toute ma famille qui vient à la campagne, eh bien, j'ai qu'à le dire à Dieu. Ça ne fera peut-être pas du beau temps, mais dans la prière, je dis tout ce qui me passe dans le cœur. Et donc, c'est bien ça. La demande de ses lèvres, tu ne l'as pas empêchée. Et là vient encore un mot dans le texte, dans la traduction, que la traduction écuménique a enlevé en pensant que ça n'avait aucun intérêt, parce que ces traducteurs sont beaucoup plus intelligents que ceux qui ont écrit la Bible, et ils pensent que ces gens-là ont mis un mot qui ne servait à rien, donc ils l'ont enlevé. C'est d'un orgueil incroyable. Le second l'a mis en italique en disant « on le laisse quand même, mais on n'y croit pas trop », et moi je le mets dans le texte. Pause. C'est pas une indication de chant, de récitation ou autre, comme, vous savez, ce petit signe dans Word pour dire saut de paragraphe. Pause, c'est merveilleux, parce que soit on l'entend en disant, si vous lisez ce psaume, eh bien, il y a un moment de pause. Donc là, vous vous arrêtez et vous faites silence. Voilà. Réfléchissez à ce que vous avez lu. Arrêtez de lire tout comme un TGV avec les versets qui s'enchaînent. Prenez du temps. Pause. Ou alors, c'est encore un objet de la grâce de Dieu. Tu lui as donné tout ce qu'il me faut, tu me donnes même le désir d'avancer et la pause. C'est-à-dire que tu me donnes de pouvoir me poser. Ce bonheur profond de trouver la tranquillité, de ne pas être tout le temps dans cette agitation. Donc, même si j'ai du désir, en Dieu, j'ai de la pause. C'est-à-dire, cela se fait dans le calme et la paix. Et la relation à Dieu, ça donne ça, la paix intérieure. Car, dit le psaume, tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes. Tu viens au-devant de lui, ça aussi, ça, j'aime ça. Et ça me fait penser évidemment à ce texte que vous connaissez du fils prodigue. Le père, quand il voit son fils de loin, qui va à sa rencontre, et ce Dieu qui nous dit, tu vas au-devant de nous, ça c'est merveilleux. Dieu n'attend pas comme une sorte de statue du commandeur en disant « j'attends qu'il revienne jusqu'à moi et je lui donnerai mes biens quand il sera revenu ». Mais Dieu vient à notre rencontre. Il court jusqu'à nous pour nous donner des bénédictions. Alors ces bénédictions, ça aussi c'est bien, parce que vous voyez que Dieu ne vient pas vers nous avec des menaces, avec des conditions, avec des exigences, avec des tas de choses terrifiantes, il vient avec nous avec des bénédictions. Ça, c'est quand même merveilleux. Dieu vient à notre rencontre et il ne nous donne que du bien. Et ces choses qu'il nous donne, ce ne sont pas des récompenses, Il ne dit pas, il vient avec nous avec des cadeaux parce que tu as été très fidèle. Mais la bénédiction, oui, ça je vous l'ai déjà expliqué. Vous savez que Barak en hébreu, ça vient de Berek, le genou, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe lorsqu'un serviteur s'agenouille devant le roi. Et la bénédiction, c'est le roi qui dit au serviteur qui s'est agenouillé devant lui, « Eh bien écoute, va en paix, je te donne ce qu'il faut pour accomplir telle mission. » Et donc c'est soit bénir Dieu, c'est le reconnaître pour son roi, et Dieu nous bénit, c'est-à-dire qu'il nous donne ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Donc c'est un envoi en mission. Et donc ces bénédictions que Dieu nous donne, eh bien c'est justement un viatique. Dieu nous donne plein de grâces, plein de joie, plein de choses, non pas en récompense, mais pour nous permettre d'aller accomplir ensuite sa propre mission. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. Ah tiens, c'est curieux ça. Pourquoi il lui met une couronne puisqu'il est déjà roi? Ça, c'est la question que posent les enfants quand ils le lisent. Ils disent, c'est absurde ton histoire. Tu lui mets une couronne alors qu'il est déjà roi. Alors certains disent, mais oui, mais peut-être que lui, il savait qu'il était roi, mais les autres ne le savaient pas. Et donc, c'est pour que tout le monde le sache. Bon, peut-être. Ou alors, moi, je dirais plutôt que c'est parce que Dieu, il est bon de marquer les choses concrètement. Même s'il est vrai que nous sommes rois, je ne sais pas si on le croit vraiment. On le sait un peu, mais on n'en est pas très sûr. Et donc, Dieu met une couronne pour le signifier d'une façon claire et visible. Et ça, entre nous, mes amis, c'est ce que nous faisons dans nos sacrements et dans le baptême. On peut dire à quoi ça sert de baptiser un enfant. De toute façon, il est aimé par Dieu. Et de toute façon, c'est un roi et un prince ou une princesse et une reine. Et donc, à quoi sert-il de faire un geste, de mettre sa robe, des beaux habits, de faire un repas, de mettre de l'eau, des prières? Ça ne sert à rien. Eh bien si, ça sert. Parce que justement, c'est de rendre concret et visible quelque chose qui est intérieur. Et ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Et donc c'est déjà bien de croire les choses, mais de les exprimer c'est encore mieux. Dieu met ce geste pour nous confirmer cette chose-là. Et puis cette couronne d'or pur qui couvre notre tête, ça me plaît aussi parce que cela veut dire que ce qu'il y a de plus précieux et de plus beau en nous, ce n'est finalement pas tellement nous-mêmes, mais cette couronne qui nous est donnée et qui est autour de notre tête. C'est-à-dire que nous sommes beaux, avant tout, parce que nous sommes aimés par Dieu. Il te demandait la vie et tu la lui as donnée. Tu lui demandais la vie, tu as donné. Là, les traducteurs ont manqué sa chose, puisque dans le texte original, le mot « vie » est au pluriel, ce qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que c'est des vies il t'a demandé et tu lui as donné. Parce que oui, la vie, elle a plein de formes. Il y a la vie matérielle, d'accord, on souhaite vivre le plus longtemps possible. Mais il y a aussi la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie dans toutes ses dimensions. Et c'est bon de savoir que nous avons besoin de toutes ces dimensions de notre vie sans lesquelles nous ne vivons pas vraiment. Et ce qui est donné, c'est pas simplement des jours très nombreux, mais une éternité. Et l'éternité, c'est ce qui va au-delà des frontières temporelles. Et savoir que notre vie peut être au-delà de ses limites, de ses frontières du temps, c'est ça que Dieu nous donne. Et maintenant, on nous dit que le roi a demandé. Ça aussi, ça m'intéresse. Parce que vous voyez que même s'il se considérait comme roi, il a quand même eu l'humilité de demander quelque chose. Et ça, c'est tout à fait important. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Là, il faut se souvenir de qui on parle. La gloire du roi est grande à cause du salut de Dieu. Alors la gloire, autre petit rappel d'école biblique, la gloire, kavod en hébreu, ça vient de kavad qui veut dire le poids. Et donc la gloire, c'est ce qui a du poids. Et quand on dit gloire à Dieu, ça veut dire je veux donner du poids, c'est-à-dire de l'importance à Dieu. Et là, ce que l'on nous dit, c'est que notre gloire, elle nous est donnée par le salut de Dieu. Autrement dit, c'est toute cette bonne nouvelle que Dieu nous donne, tout cet amour que Dieu nous donne, qui donne du poids à notre vie, sans laquelle notre vie ne serait qu'un brin de paille emporté par le vent, notre vie n'a aucune consistance sans cette grâce de Dieu. Dieu pose sur nous splendeur et magnificence, l'éclat de sa magnificence, et c'est par là que notre vie prend de la consistance. Et au verset 7, « Tu fais de lui pour toujours une bénédiction ». Et là, si vous regardez les traductions, les traducteurs le traduisent de deux manières différentes. Il ne faut pas choisir l'une ou l'autre, les deux sont bonnes à la fois. Soit c'est « Tu lui donnes pour toujours de la bénédiction », ce que je crois. Dieu nous donne toujours sa bénédiction. Soit, et c'est plus intéressant, dans la traduction de second, il lui dit « Tu fais de lui pour toujours une bénédiction ». Et donc c'est non pas qu'il reçoit, qu'il consomme toujours cette bénédiction de Dieu, mais qu'il permet aux croyants d'être lui-même source de bénédiction pour les autres. Et je vous dis, il faut les deux à la fois. C'est celui qui est béni qui peut devenir source de bénédiction pour les autres. C'est celui qui reçoit qui peut donner, celui qui se sait aimer qui peut aimer à son tour. Et donc c'est là toute l'histoire même de la parabole du semeur, de la terre qui reçoit et qui redonne, ou de plein d'autres paraboles où il s'agit toujours de l'idée d'être capable de savoir recevoir et de pouvoir donner. Et tu le combles de joie devant ta face. Et oui, cette face de Dieu, ça c'est intéressant, d'être dans le vis-à-vis de Dieu. Et quand on a un vis-à-vis et qu'on n'est pas seul dans ce monde face à rien d'autre qu'à soi-même ou qu'au Covid, mais qu'on est face à un Dieu de tendresse et d'amour, ça c'est vraiment une chose extraordinaire. Et je crois que c'est une des merveilles de la foi que de justement de ne pas être seul, mais de savoir qu'il y a un face-à-face avec une entité, dirais-je, de force et de tendresse. Le roi, au verset 8, se confie dans l'Éternel. Et par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ce roi, vous disais-je, met sa confiance dans l'Éternel. Tiens, donc ça veut dire que bien qu'on lui ait rappelé sur toutes les musiques qu'il était roi, il a quand même l'humilité de ne pas se croire tout-puissant. Et donc, d'accord, c'est vrai que c'est le danger des protestants. On n'arrête pas de dire aux protestants, vous êtes autonomes, vous êtes grands, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes chacun un pape, la Bible à la main. Et finalement, parfois, les protestants se croient trop autonomes. Et il est essentiel de savoir que même si nous sommes infiniment libres et responsables, même si Dieu nous considère comme des rois et comme pratiquement ses égaux, eh bien, il ne faut pas tomber dans une sorte de vision libertaire où on en conclurait qu'il n'y a ni Dieu ni maître, mais que cette grandeur qui nous est donnée doit nous inviter d'autant plus à mettre notre confiance dans une réalité qui nous dépasse. Alors que oui, beaucoup de protestants, à force qu'on leur dise « Vous savez, il n'y a même pas besoin de venir au culte et la foi, ça se vit tous les jours », finalement ne vont jamais au culte et vivent tous les jours sans beaucoup de foi. Et par conséquent, avoir l'humilité de se savoir très grand et en même temps de savoir qu'on a besoin de ce Dieu et de se confier en l'Éternel est une chose absolument essentielle. Et on dit par la bienveillance, c'est-à-dire par l'amour, la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. C'est curieux parce que au verset 2, je vous avais dit que c'était déjà un peu contradictoire, il y avait la force de Dieu qui donnait la joie, et là, c'est dans la bonté qu'il ne chancelle pas. Logiquement, en logique humaine, on aurait bien vu le contraire. On aurait dit, dans sa bonté, il se réjouit, et par la force de Dieu, il ne tombe pas. Mais vous voyez que c'est croisé. C'est la force de Dieu qui me donne de la joie, et c'est l'amour de Dieu qui fait que je ne tombe pas. Parce que ce qui nous empêche de tomber, ce n'est pas la main de Dieu qui nous retient à chaque fois pour nous empêcher de trébucher. Ce qui nous empêche de trébucher, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'en effet, l'amour est la chose la plus essentielle pour vivre. Nous avons besoin de nous savoir aimer, d'être nourris d'amour pour vivre. Et c'est aussi, une fois de plus, le sens même du baptême où nous disons à un enfant à sa naissance, « Tu es aimé !» Et on dit, on lui donne des parrains marraines pour lui dire, tu vois, il y a plein de gens qui t'aiment parce que nous ne pouvons pas vivre sans être aimés. Et l'amour est la nourriture, la base, le fondement de toute vie possible équilibré, sans trébucher. Et cet amour, eh bien, pour ceux qui connaissent Dieu, ils ont la chance d'en avoir une source infinie. À partir du verset 9, on a tout un passage qui déplaisait tellement aux traducteurs du psautier écuménique qu'ils l'ont mis entre crochets. Ils ont dit, ça c'est pas possible, c'est des horreurs, ça doit être une vieille théologie de l'ancien temps. Nous qui aimons l'Évangile, nous ne pouvons pas imaginer que Dieu puisse vouloir du mal à l'égard de tous nos ennemis. Et donc ils l'ont mis entre crochets en disant, sautez-le, ça vaudra mieux. Oh là 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 là, c'est terrible ça quand même. La naïveté de ces gens, alors que, évidemment, les ennemis dont il est question à partir du verset 9, ce ne sont pas des ennemis terrestres, ce sont des ennemis intérieurs. Et que Dieu puisse détruire, brûler au feu, annihiler toutes nos ennemis intérieurs, c'est-à-dire toutes nos pensées destructrices, toutes nos tentations, tout ce qui en nous mine et nous tue, eh bien ça c'est la plus grande des bonnes nouvelles. Donc oui, enlevez ces crochets et dites à Dieu, tous ces adversaires, ou plutôt toutes ces adversités, Dieu les réduit à néant, Dieu les brûle, Dieu les détruit, il n'en reste rien que de la poussière et de la cendre. Alors ça, c'est vraiment la plus belle, des bonnes et grandes nouvelles. Et j'aime ça. Tu les poses, nous dit-il. Il dit, ta main les trouve, ta droite les connaisse, parce que Dieu permet plusieurs choses. D'abord, il permet de déceler ce qui est mauvais dans notre vie. C'est le discernement. Dieu nous permet de saisir et de comprendre ce qui est mauvais pour pouvoir l'éliminer. Ensuite, il dit, tu les poses comme un four de feu et dans sa colère, tu les engloutis, un feu les mangera. Alors ce feu, soit c'est un feu qui brûle tout, qui purifie, c'est-à-dire tout le mal, toutes ces horreurs de notre vie, Dieu les jette au feu, tant mieux. Ou alors, c'est peut-être comme le haut fourneau. On met dedans une vie comme la nôtre, un mélange de bien et de mal, et Dieu purifie tout cela, et Dieu ne garde que l'or pur, et puis toutes les scories, tout ça, on en les met dans une montagne, peu importe. Ou encore mieux, comme le four des alchimistes au Moyen-Âge, l'Athanor, le médiéval, qui n'était pas simplement un four pour séparer le bien du mal, mais pour transformer le mal en bien. C'est d'ailleurs ce que font tous les ménagères et les ménagers, enfin, je sais pas, les cuisinières et les cuisiniers. Quand vous prenez un gâteau avant qu'il soit cuit, il est immangeable. Et donc, c'est une fois qu'il est cuit que tout devient bon. Et donc, ce four est celui aussi qui, non seulement détruit le mal, mais surtout qui le transforme pour le rendre comestible, voire bon. Et c'est ça, ce four dont il est question là-dedans, qui permet de transformer le mal en bien. Et puis ce feu dont il est question, c'est aussi le feu de la lumière, c'est-à-dire que le roi peut devenir un outil de... il peut être devenir lui-même un outil de transformation et il peut transformer le monde. Au verset 11, donc tu feras périr leur postérité sur la terre, c'est la postérité du mal. C'est-à-dire que Dieu peut faire en sorte que le mal existe, certes, ça il a du mal à l'empêcher, mais il peut faire en sorte que ce mal ne fasse pas de petit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conséquences, que le mal soit stérile et ne mène à rien, ça c'est important, que le mal qui nous frappe ou qui nous tente n'ait pas de conséquences, c'est-à-dire ça s'arrête là, le mal est toujours là, mais il ne donne rien, c'est une très bonne chose. Et leur descendance, donc, elle disparaît. Et même au verset 12, ils ont des projets de mal, mais leurs projets sont impuissants. C'est-à-dire que le mal lui-même perd toute capacité à avoir la moindre conséquence objective dans notre vie. Et au verset 13, alors là, c'est un verset intraduisible. Moi, j'ai mis, tu les poses sur les épaules, tu as fermé des cordes sur leur face. C'est-à-dire, le mal, il est vraiment vaincu et ligoté, quoi qu'il arrive. Et enfin, au verset 14, donc, « Lève-toi, Éternel, avec ta force, élève-toi. » Et nous avons à la fois un appel à Dieu et un cri de joie et de reconnaissance. Appel à Dieu, besoin que Dieu s'élève, qu'il s'élève dans notre cœur, dans notre vie, qu'il soit de plus en plus grand, de plus en plus présent, de plus en plus haut, de plus en plus essentiel, et que nous sachions, nous, à notre tour, eh bien, rendre grâce et chanter pour lui. Et j'aime tout ce Dieu dont, vous voyez, ce Dieu d'amour, tel qu'annoncé dans ce psaume 21, qui est à la fois un Dieu plein d'amour, de tendresse qui nous construit, qui nous fait vivre, qui nous donne la vie, qui nous défend contre le mal, qui transforme même ce mal qui voudrait nous menacer et qui le transforme en bien. Et ce Dieu, eh bien, il est tellement grand et beau que nous voulons lui dire « Élève-toi, Seigneur, sois de plus en plus grand dans ma vie parce que tu es la vraie source infinie de la vie. » Et élever Dieu, c'est aussi lui rendre grâce, savoir reconnaître que ce Dieu fort, ce Dieu de tendresse et de bonté, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu faible, un Dieu juste de mollesse, de tendresse molle, mais c'est aussi un Dieu de vigueur, de combat, de force, et que c'est un Dieu fort qui nous permet de lutter, mais c'est un Dieu auquel nous pouvons rendre grâce, et en rendant grâce, nous le faisons grandir en lui, et en grandissant à lui, nous grandissons dans l'amour, et nous pouvons devenir, comme l'indiquait le verset 1, même éventuellement être celui qui excelle dans l'amour. Amen.